Les jardinières.
Salut tout le monde et bienvenue dans les jardinières. Les fêtes approchent et nos esprits se mettent gentiment dans l'ambiance de Noël. Mais par contre, pas question d'oublier nos jolies plantes pour autant. D'ailleurs, en parlant de belles plantes, j'ai le plaisir d'être accompagnée par la plus jolie ce matin. Bonjour Mylène.
Les compliments du matin. Bonjour Stéphanie. On va se consacrer corps et âme à nos espaces verts, comme tous les samedis d'ailleurs, même que le soleil n'est pas encore levé. On ne pourrait rien faire sans notre professionnel du jardin, Jean-Pierre Ribaud, le patron de Ribaud Paysages à Queuves. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Et nous sommes le 8 décembre 2018 après cette vague de douceur. L'hiver va gentiment nous rattraper, hein. Il n'y a pas de miracle, c'est donc le moment d'envisager certaines actions indispensables au bien-être de votre jardin. Comment protéger nos fleurs? Quelles plantes doivent être rentrées? On fait le plein de bons conseils et puis on répond évidemment à toutes vos questions avec Jean-Pierre Ribaud.
Des questions que vous pouvez lui poser dès maintenant et en direct. Vous avez le choix entre plusieurs possibilités. Tout d'abord, il y a notre standard téléphonique au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Jean-Pierre vous répondra personnellement et en détail. Vous pouvez aussi opter pour l'option SMS en envoyant le mot « jardin », un espace suivi de votre question, le tout au 939. Et il existe également un formulaire que vous trouverez sur nos sites sous l'onglet « Émissions, questions aux jardinières ». Si vous choisissez l'option SMS ou formulaire, n'hésitez pas à bien détailler votre problème afin que la réponse puisse être développée au maximum.
Bah, je crois qu'on a tout dit, hein, les jardinières, c'est parti.
7h, 8h, les jardinières.
Et la première question nous vient de Jean-Pierre, tiens, un homonyme. Mais celui-là vient du Landeron. Il nous dit que son Diefenbachia, ou Diefenbachia, je ne sais jamais, c'est Diefenbachia.
Diefenbachia.
Voilà. Alors il a quelques soucis. Depuis quelques jours, les feuilles les plus proches des racines jaunissent et meurent. Il a remarqué également des vers blancs tout fins de 2 cm sur ses feuilles, ainsi qu'un parasite brun dans la terre. Burk, qu'est-ce que ça peut être, hein, Jean-Pierre?
Il a beaucoup de soucis au Diefenbachia.
Oui, il ne se porte pas au mieux, hein,
oui,
effectivement.
Oui, tout à fait. Non, ce qui peut arriver, c'est effectivement des parasites qui se mettent en hibernation dans le pot durant la grande saison. Et puis le fait de réchauffer les appartements et puis l'humidité constante, eh bien, ces parasites se mettent à se transformer pour arriver en larves. Alors, dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est quand même un produit phytosanitaire pour mettre un arrosage par-dessus la plante, pour éradiquer ces vers qui auraient au niveau du sol. Et puis, sur le feuillage, c'est très certainement des cochenilles qui se sont multipliées à l'approche, justement, de cette température élevée avec une humidité sèche. Là aussi, il faudra un autre produit. Il va trouver ça dans les grandes surfaces très facilement pour humidifier ce feuillage et puis faire disparaître ces parasites.
Je me demandais, Jean-Pierre, ces parasites, c'est pas bon pour la plante, mais pour l'humain qui habite dans l'appartement, il y a un danger?
Alors non, il n'y a pas de danger pour l'humain, évidemment, non. Il y a une quantité de parasites qui peuvent arriver sur les végétaux, mais non, pour nous, alors aucun souci pour ça.
Mylène, il y a une autre question qui nous parle d'un bulbe de cyclamen. C'est Marlène qui nous écrit pour nous dire que justement, elle a reçu un gros bulbe de cyclamen. Elle ne sait pas quoi en faire tellement il est gros. Est-ce que vous auriez un petit conseil pour elle?
Oui, bien sûr. Alors le cyclamen, c'est vrai que c'est un grand rhizome qui peut être presque de la grandeur d'une pomme moyenne. Et puis, ce qu'il faut faire avec ce rhizome, il faut simplement le poser sur un terreau, dans un pot. On l'immerge à moitié dans le terreau seulement, on ne le met pas totalement dans le terreau. Et puis, avec l'humidité qu'elle apportera au niveau de l'arrosage, le cyclamen va raciner et puis développer ses feuilles et ses fleurs. C'est une plante assez facile à tirer en avant. C'est une plante qui apprécie quand même l'humidité. Donc, si elle l'arrose copieusement, dans un endroit pas trop chaud, il n'y a pas de souci, elle aura de jolies fleurs.
On va parler des pommiers. Jean-Pierre, on a reçu un SMS de Marguerite de Queuves. Elle dit qu'elle a des pommiers en espalier et elle demande quand est-ce qu'elle doit les tailler.
Oh, tout simplement à partir de maintenant, hein, on peut tailler tout ce qui est des arbres fruitiers, arbustes, arbres d'ornement. En fait, on attend toujours que la période végétative se calme, soit que les feuilles chutent. À partir de là, on peut tailler. On peut les tailler assez tard jusqu'au mois de mars, sans souci. Le plus tôt est le mieux, peut-être. Après, il faut adapter sa taille par rapport au végétal qu'elle a. Si c'est des jeunes végétaux, il faudra tailler et puis demander au niveau de cette taille du développement de bois. Ça veut dire tailler à bois pour que l'arbre puisse continuer de se développer. Si c'est des sujets qui sont déjà en production, là, on va calmer la pousse en taillant judicieusement, justement, et puis favoriser un maximum de mise à fruits.
Est-ce que la taille change d'arbre en arbre? C'est-à-dire, est-ce que si un arbre est plus jeune, on le taille peut-être un peu moins, et vice-versa?
Alors oui, évidemment. Une jeune plantation de fruitiers, que ce soit des palmettes, des fuseaux, des mitiges ou de tiges, les 10 premières années, il faudrait intervenir chaque année parce que c'est une taille de formation, comme on l'appelle. On va chercher à développer des charpentières robustes pour arriver à avoir un végétal qui va se maintenir dans le temps, équilibrer les forces, parce que si vous avez un axe qui est très très fort par rapport à des charpentières faibles, vous condamnez vos charpentières dans le temps. Si vous avez l'inverse, des charpentières très fortes et puis un axe principal, donc la cime plutôt faible, eh bien c'est cette cime qui va périr dans le temps, puis c'est un organe important qu'il ne faut pas perdre au niveau du développement de ce fruitier. Donc oui, les 10 premières années, je dirais chaque année. Après, quand le végétal est vraiment fermé et puis se met à fruit, à ce moment-là, on intervient tous les 4-5 ans uniquement avec une scie, surtout pas de sécateur, parce que chaque taille de sécateur va provoquer une repousse de tircets qu'on n'aime pas dans la multiplication des fruits. Et puis, c'est une taille d'entretien facile. Voilà.
Et si on ne taille pas du tout?
Alors,
si on est fainéant, si on n'a pas envie, on n'a pas d'échelle.
Non, oui, alors c'est peut-être pas la solution de planter des fruitiers ou de tiges mitiges sans échelle, ça je peux vous dire. Non, si vous ne taillez pas du tout, ce qui va arriver, vous voulez avoir des entretages de sous-charpentières très longues, le végétal va se déformer, se mettre un peu à pousser comme il souhaitera. Et puis ce qui risque d'arriver après avec le temps, quand il aura une forte charge de fruits ou de neige ou de givre, il y a de fortes risques de casse sur les végétaux. Tandis que le fait de les tailler, on renforce les éléments à la base. Le reste des éléments fruitiers, eh bien, ils seront un peu plus frais, ils arriveront à plier sous les charges, sauf cette année où il y a eu passablement de casse parce qu'on a eu une année d'abondance au niveau des fruits. Maintenant, il est important de tailler, d'entretenir ces fruitiers, malgré le fait que vous n'avez pas d'échelle, sinon je me recommande.
C'est très bien de le glisser, Jean-Pierre, vous avez raison. En tout cas, bon, on a reçu une autre question concernant justement des arbres fruitiers. On a d'ailleurs reçu des photos avec, hein, Jean-Pierre, on vous les a montrées. C'est une question de Raphaël qui vient d'acheter une maison avec un grand verger. Et puis, il a l'impression que ces arbres sont malades. Donc, on vous a montré les quelques clichés qu'il nous a envoyés. Est-ce que vous pouvez déjà nous décrire ces photos, puis répondre à Raphaël, Jean-Pierre?
Oui, bien sûr. Bonjour, Raphaël. En fait, les photos que j'ai, c'est des pommiers qui ont déjà une certaine paire d'années. C'est vrai que la photo de cette saison d'été n'a pas été très joli. On se rend compte qu'il y a énormément de fruits sur le fruitier, mais c'est des petits fruits. Et puis, il manque énormément de feuillage. Sur le végétal lui-même, la photo où on voit vraiment les charpentières, on se rend compte que c'est un vieux fruitier. Je pense que c'est un arbre qui est en train de régresser. Ça veut dire qu'il a fait son temps. Alors après, pourquoi, pour qui, pour comment? Est-ce que c'est un problème de porte-greffe qui vieillit trop vite ou qui a un problème au niveau des racines? Ou est-ce que c'est au niveau du démarrage des charpentières? Là, on le voit très bien sur la photo. On se rend compte qu'au démarrage, justement, à la taille de formation, comme on citait tout à l'heure, on a 5-6 charpentières qui démarrent au même nœud, ça veut dire au même endroit. Et puis avec le temps, ces démarrages posent problème parce que ça étouffe une partie du végétal. Alors est-ce que là est le problème ou est-ce que c'est vraiment un problème d'âge? Mais là, en l'occurrence, c'est un arbre qu'il faudra supprimer et remplacer.
Les jardinières.
On va parler un peu de fruits de saison, fruits à coque. Marcel a un noyer à proximité de ses arbres fruitiers. Il s'est laissé dire que le noyer pouvait apporter des maladies aux autres arbres. Du coup, il hésite à l'abattre. Que pouvez-vous lui conseiller, Jean-Pierre? En quoi un noyer peut être néfaste?
Eh ben, je conseille surtout à Marcel de ne surtout pas abattre son noyer parce que ce serait dommage. Après, ce que je ne sais pas évidemment, c'est le volume et l'âge de ce noyer, mais c'est des arbres qui sont somptueux, majestueux. On ne peut pas dire que le noyer amène des parasites ou des maladies aux autres fruitiers, surtout pas parce que c'est une plante qui a un certain tanin, qui a une certaine odeur et puis qui ferait plutôt effet inverse, ça veut dire échappatoire par rapport aux parasites. Après, par rapport à ces fruitiers, alors ça dépend un peu de l'emprise de la couronne de noyer par rapport à la distance plantée des arbres fruitiers. Il faut savoir que, bien sûr, le noyer est un volume conséquent au niveau du feuillage qui absorbe une quantité de luminosité. Et puis par-dessous, vous aurez plus de peine à faire développer quelque chose correctement. Le noyer est vraiment un arbre splendide qui est plutôt en perdition dans nos régions. On a un peu des problèmes les dernières années plutôt dus au gel, un dépérissement qui arrive sur le noyer. Non, faut surtout pas abattre ce noyer, d'autant plus s'il est en super santé.
Et je me demandais, sous les noyers, ben, à cause des feuilles, ça pousse pas bien. Mais si on laisse les noix dans leur... comment ça s'appelle? Des bogues, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que c'est mauvais pour le sol?
Mais non.
Vu qu'elles sont pleines de tanins.
Non, pas du tout. Après, c'est vrai que si vous avez un noyer dans une pelouse, ce sera peut-être nécessaire de devoir ramasser ce volume de feuilles, de coques, de noix. Si vous êtes dans un pâturage, il n'y a pas de souci. Naturellement, tout va se décomposer et puis retourner en humus au sol.
Ou faire la fête aux écureuils aussi.
C'est évident.
Il faut penser à eux, en tout cas. En tout cas, Mylène, on voit que vous avez la main verte. Hein. D'autres l'ont un petit peu moins, comme Paula. Alors Paula, elle s'est rendue compte qu'elle avait certainement trop arrosé ses plantes. Elle les a carrément douchées. Alors elle a un lierre et un Dracanea marginata. Le Dracanea a le tronc tout mou et le lierre a la terre trempée. Pardon, est-ce qu'elle peut sauver ses plantes, notre Paula?
Alors effectivement, le Dracanea est une plante qui n'apprécie pas du tout l'eau dormante. Ce que je ne sais pas si elle a rempoté cette plante récemment ou l'année passée. Ce qu'il faut savoir, lors du rempotage de cette plante, il faudrait faire un drain dans le fond du pot avec un gravillon de 3-4 cm et puis un petit tissu par-dessus pour éviter que les racines ne viennent s'immerger totalement dans l'eau, parce que ce n'est pas une plante qui supporte l'eau constante au niveau des racines. Et puis si elle a trop arrosé et puis qu'il y a une sous-tasse et puis qu'effectivement ses racines sont d'autant plus pas dans un drainage et puis immergées dans ce lit d'eau, automatiquement la plante elle va plutôt périr, c'est sûr. Pour le lierre, c'est une plante qui supporte nettement mieux l'humidité. Après, elle n'aime pas l'humidité constante. Je lui conseille peut-être, si elle a trop arrosé ses plantes, de mettre ses plantes dans un évier sans sous-tasse pour qu'elle s'égoutte une bonne nuit. Et puis après, arroser parcimonieusement, régulièrement. Ou alors le mieux, c'est quand elle se rend compte que le terreau vient très sec, elle les immerge une heure dans un bassin pour irriguer totalement la plante. Après, elle la laisse s'égoutter sur une, deux heures à côté sans la sous-tasse. Et puis là, il n'y aura plus de soucis.
Et donc justement, on parle de baigner ou pas une plante ou de doucher. Donc on sait que pour ce genre de plantes-là, c'est pas très conseillé. Mais est-ce qu'il y a des plantes qui nécessitent des bains? Je sais pas, on parle de ça pour l'orchidée, par exemple.
Non, alors toutes les plantes à l'intérieur apprécient énormément une vaporisation d'humidité plutôt avec de l'eau de pluie et pas de l'eau calcaire. D'autant plus que maintenant, on est en période hivernante et puis on a des appartements plutôt très secs au niveau de l'air avec une température constante. Les bassiner, on peut aussi le faire, simplement il ne faut pas oublier de les laisser s'égoutter pour que ce surplus d'eau s'en aille, parce que ça irait avec un nénuphar, une plante, une héliophyte, une plante comme ça. Mais non, après, les plantes d'appartement n'apprécient pas forcément toujours des gros bains d'eau. Et puis, ne pas lésiner justement sur ce drainage au-dessus des pots pour que ces racines ne viennent pas constamment dans le bain d'eau. Après, vous avez peut-être l'autre choix, c'est si vous achetez une plante, eh bien d'acheter des plantes en hydroculture. Là, c'est nettement plus facile parce que c'est des plantes qui vivent dans des boulettes de l'éca, c'est de l'argile expansée. Et puis, vous avez des jauges au niveau de l'humidité. Simplement, si vous avez des plantes en hydroculture, là, il faudra un peu plus être attentif à la mise en place de l'engrais, parce que effectivement, la boulette, eh bien, c'est un élément très neutre. Et puis, la plante va survivre uniquement avec les éléments fertilisants que vous mettrez lors des arrosages.
Les jardinières.
De retour dans les jardinières jusqu'à 8h, on répond à toutes vos questions jardinage. Et pour ce faire, nous sommes accompagnés de notre professionnel du jardin. Ce matin, c'est Jean-Pierre Ribaud, jardinier paysagiste à Queuves, qui est avec nous. Bienvenue à vous qui nous écoutez, si vous nous rejoignez à l'instant.
Et vous le savez, les jardinières, c'est votre émission, quelle que soit votre question. jardin bien sûr, vous pouvez la poser au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous aurez ainsi l'occasion de discuter directement avec notre professionnel Jean-Pierre Ribaud. On lit également vos SMS. Pour rappel, il vous suffit d'indiquer le mot jardin, un espace, puis votre question et vous nous envoyez le tout au 939 ou sur notre site vous trouverez aussi un formulaire à remplir sous l'onglet émission questions jardinières. Dans les deux cas, n'hésitez pas à bien détailler votre problème.
Et oui, comme l'a fait Patricia qui nous a envoyé cette question. Depuis 2 ans, les légumes racines ne poussent pas dans mon jardin. Donc, légumes racines, on rappelle, hein, Jean-Pierre, c'est tout ce qui est céleri, carottes, radis, voilà. Alors, elle nous demande, est-ce que c'est dû au calcaire? Est-ce que sa terre peut être améliorée pour la saison prochaine?
Oui, alors c'est sûr que au niveau potager, pour avoir des super légumes et puis surtout des légumes de sol à production souterraine, il faut un sol qui est hyper riche en matière nutritive ou en humus. Alors, pour améliorer ce potager, bien sûr, je ne le vois pas, je ne sais pas quelle est la structure du sol, je ne vois pas si c'est un sol qui est profond, qui est riche, qui est exposé à l'humidité ou au sec, mais en tous les cas, une adjonction d'un super compost très bien décomposé. Je vous rappelle là qu'il faut prendre des composts dans des grandes composteries, hein, parce que si vous avez, vous, un petit compost, ce qui arrive, c'est que la température de la fermentation ne monte pas assez haute. Et puis, vous avez une arrivée abondante par la suite de mauvaises herbes par rapport à ce compost qui aurait été mal transformé. Donc, une grande compostière avec un super terreau que vous arriverez à trouver. Ici, dans la vallée, on a. Pour Entrée aussi, je ne sais pas d'où vient la dame, là, mais...
Ce n'était pas mentionné, effectivement.
Alors, OK, pas de souci.
Il y a aussi dans le canton de Neuchâtel, peut-être.
Alors, il y a aussi sur le Val de Travers, tout à fait. Mmh. Et puis, évidemment, une bonne épaisseur, en tout cas 10 cm, un bon bêchage maintenant au niveau du sol pour que ce compost s'intègre aisément au niveau du sol durant l'hiver. Ensuite, printemps, un bon coup de monoculteur pour raffermir cette terre. Et puis, à ce moment-là, ça devrait redémarrer.
Et je me demandais, souvent, la terre est trop compacte. Est-ce qu'on peut trouver ou acheter des vers de terre?
Non.
Non,
mais on peut provoquer la multiplication de vers de terre par une adjonction, par exemple, d'un fumier...
De musique douce?
Oui, aussi peut-être. Ça, je n'ai pas
vous
essayé.
C'est technique, vous, hein? Oui,
Non. Mais avec beaucoup de matière organique, vous arriverez à développer les vers de terre qui vont vraiment vous aérer le sol, c'est évident.
Vous entendez quoi par matière organique?
Alors un fumier, un mulchi de feuilles, de la paille super décomposée ou même du compost, c'est quelque chose qui allège le sol. Et puis le ver de terre qui transforme tous ces éléments va se multiplier d'autant plus par le fait qu'il aura une abondance de nourriture.
Bon bah Mylène, un petit élevage de vers de terre, ça vous
c'est
dit?
C'est parti.
Oui, je verrai bien.
On va parler de petites serres de culture. C'est Raoul qui aimerait connaître votre avis, Jean-Pierre, ou votre expérience au sujet des petites serres de culture pour y cultiver des tomates, par exemple. Et concernant le type d'arrosage le plus approprié, est-ce risqué de tenter une plantation maintenant?
Alors, au niveau des serres, il y a 1 milliard de sortes de serres qu'il peut réaliser. Hein. Ça peut même être un couvert plastique. Simplement, à ce moment-là, il faudra acheter un plastique dans une grande surface qui est résistant aux UV, parce que si vous mettez un plastique standard, au bout de 2 ans, il s'effrite totalement, mangé par le soleil. Alors, une plantation, mais non, évidemment pas, parce que s'il le souhaite, il faudrait carrément mettre un chauffage continu dans cette serre pour tenir une température hors gel. Et puis même pour une tomate, une température hors gel ne va pas suffire, parce qu'on sait que la tomate, c'est une plante du sud qui apprécie énormément les hautes températures. Par contre, une culture de tomates dans une serre par chez nous, mise en place sur la période du mois d'avril, vous garantit une super production de tomates. Au niveau de l'arrosage, il y a plusieurs styles. Le mieux, ce serait d'acheter un de ces petits ordinateurs qu'on trouve dans le commerce avec une horloge. Et puis, vous branchez ça sur votre robinet et puis l'arrosage va se faire régulièrement. La tomate apprécie énormément la température, mais énormément l'humidité également. S'il n'est pas possible d'acheter un ordinateur justement d'arrosage ou d'installer un système de ce type, alors évidemment chaque jour, passer avec l'arrosoir. Là aussi, on préfère ne pas mouiller le feuillage et encore moins les fruits pour éviter l'arrivée du mildiou et des autres maladies. Un arrosage au sol est copieux et indispensable.
Et puis si on, par rapport au, à la plantation des tomates, à la période, je reviens là-dessus, si il fait bien chaud avant le mois d'avril, est-ce que c'est risqué d'avoir donc des chaleurs un peu précoces? Est-ce que c'est risqué de se lancer avant ou on risque de perdre la plupart des récoltes s'il y a un coup de froid qui revient un peu après?
Non, non. Alors la tomate, chez nous, on dit qu'en pleine terre, on la plante après les saintes glaces. Si vous êtes dans les 2-3 jours qui précèdent cette période, eh bien, on les protège encore avec un journal pour éviter le froid qui arrive par-dessus. La tomate ne supporte pas du tout le moins zéro. C'est vraiment une plante qui est très, très sensible au froid. Après, si vous avez une serre dans laquelle vous arrivez à tenir une température un peu plus élevée, mi-avril, vous pouvez déjà planter vos tomates. Il faut simplement ne pas oublier de fermer cette serre durant les nuits qui sont encore fraîches à cette période. Là, vous allez gagner un mois et demi de production sur vos tomates. La tomate, c'est une plante qui est presque inépuisable. On n'aurait pas du tout de gel, vous pourriez tenir presque vos plantes tomates sur une année. Elle va produire, elle va pousser. Ce qui les tue chez nous, c'est effectivement le froid. Soit au printemps, parce qu'on n'arrive pas à l'implanter, ou à l'automne, les premières gelées, c'est là que vous perdez vos plants.
On va rester dans les légumes chauds, on va parler d'avocat. J'ai planté dans un pot un noyau d'avocat au printemps dernier. Il a bien grandi et se porte bien. Quels sont vos conseils afin qu'il passe bien l'hiver, à savoir qu'il a déjà perdu toutes ses feuilles? C'est Jean-François qui pose la question.
Oui, bonjour Jean-François. En fait, ce qui se passe, c'est que à cette période-ci, vu de nouveau le problème des appartements avec une air sèche et chaude, votre avocat, il a subi ce choc thermique-là. Pour le récupérer, ce qu'il faudrait, c'est le rempoter et puis l'arroser, évidemment. Pas oublier ce drainage en dessous de la plante. Et puis le placer dans un endroit qui n'est pas trop trop chaud, parce que l'avocat n'est pas une plante qui apprécie trop. Alors oui, elle aime le chaud, mais elle n'aime pas l'humidité. Elle n'aime pas, la température sèche. Donc plus vous aurez une température de 8, 10, 12 degrés dans l'appartement ou dans un réduit que vous aurez où il y a de la luminosité, et moins l'humidité de... Et plus l'humidité, pardon, je m'y perds, plus l'humidité de l'air sera dense. Donc... trouvez un espèce de jardin d'hiver pour poser votre avocat et puis un bon rapotage et elle va redémarrer.
Les jardinières.
Nous sommes toujours avec Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve. On pose vos questions jardinage. D'ailleurs, c'est Jennifer de Seignelégier qui nous a écrit et qui se demande quelles sont les plantes toxiques à éviter absolument, sachant qu'elle a un chien à la maison.
Eh bien, bonjour Jennifer. Je pense que la plante à éviter absolument à la maison, si vous avez un chien qui serait plutôt d'attaque, c'est peut-être le chat. Parce que... Il n'est pas de plante toxique pour le chien, vraiment pas.
Il en est
pour nous, mais pas pour le chien. Il est d'autant plus que, à moins qu'il soit vraiment herbivore, ce qui n'est certainement pas le cas, il a gardé son origine carnassier. Non, vous risquez rien, pas de souci pour les plantes et le chien.
Et pour les chats, alors?
Alors le chat, c'est plutôt un animal qui a tendance à manger un peu de l'herbe des fois pour se faciliter ou recracher les poils qu'il a dans l'estomac. Il y a de l'herbe à chat qu'on peut acheter, mais il ne va pas s'attaquer à la baie du hou ou du troène qui sont toxiques parce qu'il n'est pas du tout intéressé par ça. Il sera juste intéressé par de l'herbe pour justement ressortir ce poil qu'il aura ingurgité lors de sa toilette matinale.
Et par contre, si vous avez un chat, faites attention avec vos arbres parce qu'ils adorent se faire les griffes dessus.
Alors oui, mais pour ça...
Ah, les canapés.
Oui, ou les canapés. Alors pour le canapé, je ne sais pas, mais pour les arbres, c'est souvent que ça arrive sur des jeunes plantations. Et puis pour éviter ça, on a des protections qu'on trouve dans le commerce, des 60, 80 ou 1 mètre de haut, ou simplement des fois des bouteilles de pète qu'on coupe et puis qu'on introduit au niveau du tronc. Ça le gêne et puis il ne va plus le gratter. Après, quelques griffes sur le tronc ne sont pas nocifs. Si c'est une intensité, effectivement, là, faut sévir parce que sinon, vous aurez du dégât sur le végétal.
Est-ce qu'il y aurait, question un peu bête peut-être, s'il y a des plantes toxiques pour les chats, donc je reviens là-dessus, elles sont peut-être aussi toxiques pour les enfants?
Non, alors il n'y a pas de plantes toxiques pour le chat parce que le chat ne veut pas s'attaquer à une plante qui n'est pas intéressée à ingurgiter.
Ah, c'est vraiment...
C'est vraiment ça. Par contre, pour les enfants, oui, évidemment. Toute petite baie, petit fruit de couleur noire, de couleur rouge, peut-être tenté par un enfant d'être mangé. Et puis là, on les connaît. Il y a le hou, il y a le troène, il y a les viornes. Il y en a quelques-unes qu'il faut vraiment éviter de planter. Après, vous les avez de toute façon jamais dans un appartement, c'est toujours dans les aménagements extérieurs. Oui. Et puis à ce moment-là, ben, il faut simplement soit demander aux professionnels de ne pas implanter ces végétaux ou d'informer vraiment les enfants. Parce que si ce n'est pas chez vous que le problème va se produire, ça peut être en forêt, ça peut être chez le voisin, ça peut être dans un espace public. Et donc voilà.
Mais c'est dangereux. Enfin, si un enfant mange ces petites baies, là, nous,
non. Je vous sens paniquer. Mais...
Alors,
non, c'était pour savoir s'il va juste vomir.
Non, alors il va vomir, il ne sera pas bien, il aura peut-être une poussée de fièvre. Il faudra peut-être quand même le faire consulter par un médecin. Mais non, on n'a pas de cas mortel vraiment sur ces fruits-là, vraiment.
Voilà.
Bon, allez, parlons orchidées maintenant avec Jean-Luc, qui a plusieurs orchidées qu'il aime beaucoup, hein, nous dit-il. Une fois que les fleurs sont tombées, eh bien, il n'a pas envie de les jeter comme le font la plupart des gens. Bon, il se demande donc à quelle fréquence il faut changer le terreau spécial orchidée, précise-t-il aussi, pour que les plantes refleurissent.
Alors, il a bien raison de ne pas jeter ses orchidées, parce que l'orchidée, c'est une plante plutôt facile si vous ne la bichonnez pas trop. Il faut, une fois qu'elle a fini de fleurir, il faut la poser dans un espace où il ne fait pas trop chaud, comme on a toujours dit, où il y a de la luminosité, les arroser de temps à autre, mais pas forcément énorme, parce que c'est une plante qui aime ces périodes sèches. Ou alors, vous la coupez, je dirais, vous l'arrosez une fois par semaine sur un mois, et puis après, vous réintensifiez un peu plus cet arrosage pour repartir en floraison au niveau du plant. Et puis au niveau du rempotage, plutôt après la floraison, parce que lorsque la plante est en pleine floraison, elle pompe un maximum d'éléments nutritifs pour alimenter et la fleur et surtout la graine, hein, parce que la plante, elle, ce qui l'intéresse, c'est de produire de la graine et non la fleur. Puis la fleur est là uniquement pour une question de pollinisation. Après, effectivement, il faut acheter un terreau. En fait, c'est des sacs d'écorce avec des lichens qui se trouvent dans ces écorces mélangées. L'orchidée n'apprécie pas du tout le terreau, n'apprécie pas du tout la terre lourde. Il lui faut un espace aéré au niveau des racines. Donc, juste après floraison, la rempoter, un pot un peu plus grand. Et puis voilà, tout est reparti.
Il y avait mon téléphone qui sonnait. Ah, il a arrêté de sonner. Donc, on rappelle le numéro 0901 70 20 20 36 centimes la minute. Désolée, je n'ai pas pu répondre plus vite. Mais
ils ont encore quelques minutes. Hein, ils ont encore quelques minutes pour rappeler.
Quelques minutes pour nous appeler ou alors utiliser le formulaire comme l'a fait Héloïse de Plaigne, qui a un yucca qui est en train de mourir. Elle pense, elle ne sait pas ce qu'il a, mais ce yucca perd ses feuilles. Jean-Pierre, est-ce que vous avez une piste, une solution?
Une solution au problème de yucca. En fait, si c'est un yucca d'appartement, eh bien, à cette période, on le sait, hein, c'est la période critique pour les plantes d'appartement. Ce qu'il faudrait voir, c'est l'emplacement, c'est de savoir s'il y a eu une modification au niveau de l'arrosage, de savoir quel pot est là, la grandeur du pot, cette plante. Pour la récupérer, il faudrait vraiment la voir, c'est plus compliqué, mais... Il faut faire un sondage au niveau du sol. Si c'est trop arrosé, le yucca est une plante plutôt de période sèche, de région sèche. Elle n'apprécie pas du tout l'eau dormante, donc peut-être enlever la sous-tasse quelques temps, la laisser un peu s'assécher pour qu'elle reprenne pied. Si vraiment elle n'a pas du tout été arrosée et puis que vous avez un terreau qui s'est retiré dans le pot, qu'on se rend compte qu'il y a des fissures et puis que c'est un manque d'humidité, eh bien, il faut la arroser. Après, si c'est parce que dans les yuccas, on a aussi des yuccas d'extérieur, le yucca filamentosa, qui est merveilleux par nos contrées, malgré qu'on est dans dans une région plutôt humide. Si c'est cette plante-là qui périt, certainement c'est une attaque de parasites au niveau des racines. Le yucca, c'est une plante qui est plutôt en rosette au niveau du sol. Et puis la souris apprécie énormément ce couvert. Et puis peut-être qu'elle aura du dégât de souris au collet de cette plante si c'est justement le filamentosa qui se trouve à l'extérieur.
Au niveau de la terre, est-ce que c'est vous parliez justement de cette terre asséchée avec des fissures. Est-ce que le fait de la changer, ça peut booster un peu la plante?
Alors, si ça arrive que vous avez une plante qui a été complètement desséchée au niveau du terreau et puis que vous avez ces craquelures au niveau dans le pot de la terre, dans un premier temps, avant de la rempoter, il faudrait déjà l'irriguer pour que cette terre reprenne un peu forme, se relie entre elles. Parce que si vous la sortez du pot, ce qui va arriver, vous allez avoir trois montées de terre et puis les racines seront complètement dégarnies de ce substrat. Et puis pour le végétal, repartir dans un nouveau terreau, malgré cette situation, ce sera très compliqué. Quand on fait un rempotage, on évite de démonter la motte existante. Ce qu'on fait, on prend un couteau et puis on coupe le premier centimètre tout autour de, du végétal. Alors on fait plutôt des incisions verticales, hein, on ne démote pas complètement cette plante, mais on donne des incisions verticales pour obliger les racines dans la nouvelle structure du nouveau pot à repartir dans le nouveau terreau. Parce que sinon, les racines, comme elles ont un sens de rotation au niveau de leur pousse, dont pris au piège dans ce pot, eh bien, elles vont continuer de tourner et puis ça peut même étouffer votre plante. Tandis que si vous coupez justement sur le vertical, eh bien, vous coupez ce sens et puis les racines vont repartir dans le nouvel espace.
Merci Jean-Pierre. On arrive gentiment au terme de notre émission des jardinières. Nous sommes le 8 décembre. L'hiver s'installe gentiment. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre jardin maintenant ?
Maintenant, encore le ramassage des feuilles, évidemment, parce que si vous avez un gros tapis de feuilles, eh bien, les pelouses vont souffrir, vous aurez des parasites qui veulent arriver par-dessous. Tout ce qui est des plates-bandes vivaces, ça aussi à tailler, nettoyer, entretenir. Vous pouvez mettre des mulchis en place. Donc, mulchis, on parle de couverture du sol par des composts, par des copeaux, par de la paille, des éléments comme ça.
Ou prendre les feuilles mortes du gazon pour les mettre sur le jardin ?
Aussi, on peut tout à fait. Par contre, là, au printemps, il faudra vraiment les intégrer dans le sol parce que sinon, vous allez avoir de la peine de retravailler votre sol. Et puis sinon, on arrive gentiment à la période hivernante où il faut admirer le sapin de Noël.
Et ouais, puis les étoiles de Noël, toutes brillantes.
Tout à fait.
Et oui, le temps file hein, quand on est en bonne compagnie. Merci Jean-Pierre Ribaud d'avoir répondu aux nombreuses questions des auditeurs ce matin. On vous retrouve l'année prochaine dans les jardinières. Donc on vous souhaite de belles fêtes. Hein.
Merveilleux, pareil à tout le monde, c'est gentil.
Merci Jean-Pierre. Et puis les jardinières, elles seront de retour samedi prochain pour un nouveau rendez-vous jardinage. Et si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, pas la peine d'attendre samedi prochain, vous pouvez le faire dès maintenant par SMS au 939 ou avec le formulaire présents sur nos sites. Vos questions seront traitées en priorité samedi prochain dès 7h. Bon week-end.
Et bon week-end à vous.
7h, 8h. Les jardins.